Yann Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
À l'origine, Boko Haram était une secte religieuse radicale dirigée par Mohamed Youssouf. Qui était-il?
Mohamed Youssouf, c'était un prêcheur religieux très charismatique. C'est quelqu'un qui est originaire de Maïdougouri, qui avait des liens avec la secte à l'époque, la secte Izala, qui est aussi une secte islamique radicale, qui avait aussi ses racines dans le sud du Niger, donc dans la région d'Ifas.
Quelles étaient ses idées à l'origine? Qu'est-ce qu'il prônait?
C'est quelqu'un qui prêchait une approche très orthodoxe de l'islam, qui était ce qu'on pourrait considérer comme islamiste aujourd'hui ou salafiste. Mais c'est surtout quelqu'un qui se servait du discours religieux pour dénoncer les carences, pour dénoncer les griefs, pour dénoncer les problèmes du gouvernement nigérian et de l'armée aussi. C'est quelqu'un qui s'est servi du mécontentement populaire pour construire ses idées, pour construire sa structure idéologique et religieuse. Et donc, en servant des principes religieux, est parvenu à transformer ou du moins appliquer ses idées politiques qui étaient basées sur la charia, l'idée d'un islam pur, pour contrer ce qu'il considérait comme la mauvaise gestion du gouvernement nigérian.
Donc là, on est début des années 2000. Qui était derrière cette secte-là? Qui faisait partie de cette secte?
C'est un mouvement très populaire. Donc, on parle de gens qui avaient des problèmes à trouver des emplois, beaucoup de fermiers, des gens qui étaient les mal-aimés de la société nigériane, qui ont trouvé dans les discours de Mohamed Youssouf quelque chose qui leur plaisait beaucoup. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, donc arrivait à relier les gens de différentes factions. À partir du moment où les autorités ont commencé à remarquer son influence, son prestige, il s'est mis à avoir un appui à part de structures formelles. Bon, il y avait des accusations à l'époque que l'ancien gouverneur Chétiman l'avait appuyé pour certains temps, mais il y avait certainement un ensemble de différentes personnes aussi assez influentes dans le nord-est du Nigeria qui se sont mis à appuyer Boko Haram, même si certaines personnes avaient des craintes par rapport à l'influence, à la tendance du groupe. C'était néanmoins perçu comme un atout politique. Et donc, progressivement, c'est passé d'un mouvement très populaire à un mouvement qui s'est mis à inclure des figures de proue assez influentes au Nigeria.
Comment et pourquoi ce mouvement s'est-il rebellé?
C'est un mouvement qui, en raison de son influence grandissante, a souvent été instrumentalisé pour des raisons politiques. Il y a plusieurs incidents comme quoi soit Boko Haram était utilisé comme pour de la collecte de fonds, pour comme du muscle, aussi comme pour un facteur d'intimidation dans des campagnes électorales ou pour un début politique. Et progressivement, cette influence-là s'est transformée en atout politique pour Boko Haram, qui est un atout politique qui est devenu dangereux pour les autorités. Et ils se sont mis à se rebeller parce que les appuis qu'ils avaient originellement, les appuis formels, si on peut dire, du moins de la part d'acteurs connus et reconnus, les gens se sont mis à se distancer d'eux progressivement. Et parce qu'ils ont grandi en influence, ils sentaient que le moment était là justement pour commencer à imposer ses idées, commencer à dénoncer pleinement ce qu'ils considéraient comme une société impie et injuste, et donc à tenter d'imposer leurs propres idées. Donc c'est le début du mouvement rebelle qu'on voit vraiment à la fin, là, 2008, début 2009.
Quel a été le moment clé qui a fait basculer ce mouvement non armé dans la violence?
Le moment clé, c'est juillet 2009. Ça commence essentiellement par un rassemblement organisé par Boko Haram près de Maïdougouri et à Bauchi. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve dans les partisans de Youssouf, tentent de s'organiser, veulent aller participer à cet événement-là. Le gouvernement intervient, donc la police du Nigeria intervient, et c'est un conflit qui résulte en plusieurs décès. Il s'ensuit des émeutes sur 3 jours, et donc le gouvernement, l'armée, décide d'arrêter Mohamed Youssouf 3 jours plus tard, donc le 29 juillet, et l'exécute en public. À partir de ce moment-là, le mouvement prend vraiment sa force, arrive à démontrer les raisons pour lesquelles ils se battent ou se rebellent sont justifiées. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Aboubacar Shekau prend contrôle du groupe et lui donne une autre tangente.
Avec Aboubacar Shekau, quel est après le mode opératoire principal de ce groupe?
C'est à partir de 2010, on voit vraiment un début de raffinement, de sophistication du côté de Boko Haram. On voit ce qui est passé de légers assauts à l'utilisation d'engins explosifs improvisés, l'utilisation de véhicules, les assauts, les attaques, c'est non seulement contre des civils, mais ça vise aussi les forces du gouvernement. On voit que c'est un modus operandi qui est en pleine mutation. On voit qu'il y a un ajustement, une prise de conscience, un accès à des ressources, un accès au savoir, qui fait en sorte que le modus operandi se transforme beaucoup en 2010 et 2011. Et ça culmine justement par l'attentat aux explosifs contre la centrale des Nations Unies à Abuja en 2011.
Yann Saint-Pierre, merci.
C'est moi qui vous remercie.